Présentation du Festival des Chapelles en Royan-Vercors, 16e édition. Retransmission de la soirée organisée par l'association Les Yeux Fertiles, le 5 mai 2023, dans la salle La Parenthèse à Saint-Jean-Royan. Présentation par Fabrice Ferrez, directeur artistique du festival, de cette 16e édition à suivre du 14 au 30 juillet, ayant pour thème « Tous nos 20e siècles ». En accompagnement musical, lors de cette soirée, le guitariste Rémi Patel.
Vous allez bien, ravi de vous retrouver. On est très très content de pouvoir, pour la deuxième année, vous proposer ce concert gratuit et cette présentation du festival. Vous savez que c'était une première l'année dernière qu'on puisse, dès le mois de mai, vous annoncer l'ensemble de la programmation, vous présenter les artistes, les concerts, et évidemment, en profiter pour vous faire entendre de la musique, parce que l'idée, c'est de vous donner de l'information, que vous puissiez parcourir la plaquette, parce qu'elle vous donnera évidemment toutes les informations, et puis la donner évidemment aux amis des amis, et plus si affinité. Mais aussi, bien sûr, entendre de la musique. Et vous allez voir qu'on n'a pas choisi n'importe qui. On a choisi quelqu'un que vous avez d'ailleurs entendu ici même. C'était le 10e anniversaire du festival. Et vous allez voir qu'il a encore grandi. Quand je dis grandi, ça ne veut pas dire qu'il était petit en taille. Ça veut dire que sa carrière d'artiste et son savoir-faire se sont développés pendant ces 6 dernières années. Voilà, il est temps de couper les téléphones portables. Et je vous propose de vous dire un mot déjà sur la thématique qu'on a choisie cette année. Le festival va commencer le 14 juillet et s'arrêter le 30, et la thématique qu'on a choisie, elle s'appelle « Tous nos 20e siècles ». Alors c'est peut-être aussi les vôtres. On s'est dit qu'on était en 2023 et que ce siècle si riche, mais aussi si chaotique qu'a été le 20e siècle, dans lequel certains ici dans la salle d'entre nous sont nés, pas tous, mais certains, il valait le coup de se pencher dessus en musique. C'est un siècle qui est vraiment, pour nous musiciens, extrêmement riche, parce qu'il a vu la musique gagner l'ensemble des continents, traverser les frontières. Au 19e, au 18e, au 17e, il y avait une grande musique française, une grande musique italienne, une grande musique allemande, mais il n'y avait pas encore une grande musique américaine, il n'y avait pas encore une grande musique qui nous venait d'endroits plus éloignés du monde. Et donc, c'est sans doute une des raisons qui ont fait que le XXe siècle a été quelque chose de passionnant. Et si on a intitulé « Tous nos XXe siècles », c'est parce qu'évidemment, c'est un siècle qui, avec les catastrophes qu'il a traversées, évidemment, deux guerres mondiales et encore beaucoup de choses, et aussi les inventions extraordinaires, de la découverte des antibiotiques jusqu'au CD et jusque pour nous musiciens à la radio, qui sont vraiment des choses extraordinaires, a été plein de bouleversements et donc a été vécu mais par chacun d'une manière différente. Et les souvenirs qu'on a de ce siècle-là, je suis sûr qu'on les partagera tout à l'heure autour du verre de l'amitié, ils sont évidemment très très contrastés et très très divers. Voilà, donc je pense que ce sera un voyage passionnant. J'imagine aussi un voyage surprenant, parce que peut-être dans l'imaginaire collectif, ce XXe siècle, il est seulement associé à une notion de modernité. Alors quelque chose qui a été écrit en 1900, vous imaginez bien, maintenant qu'on est en 2023, c'est plus forcément tout à fait moderne, hein, c'est quand même il y a longtemps maintenant. Et une des idées que j'ai eues qu'on a eues en bâtissant la programmation, ça a été justement de montrer qu'il y a eu des paris modernes, voire d'avant-garde dans ce XXe siècle, mais il y a eu beaucoup d'autres choses en termes musicaux, beaucoup de genres musicaux qu'on peut parcourir. Alors on va ouvrir cette tradition, vous le savez, le 14 juillet par une journée qui est sur le plateau du Vercors, qui est toujours bien riche. On sera en partenariat d'abord avec le Musée de la Résistance et avec notre ami et soutien fidèle Pierre-Louis Filet. On va commencer à 14h par une visite du village en musique. Vous savez que le 14 juillet, c'est toujours l'anniversaire de ce parachutage américain, qui est le seul qui a eu lieu en plein jour sur le village de Vassieux. Et donc, on va jouer une œuvre pour instrument à vent d'un compositeur qui s'appelle Malcolm Arnold, qui s'appelle Three Shanties, et qui a été écrite qui a été créée sur un des terrains d'aviation de la Royal Air Force, aux alentours de Londres, pour encourager les pilotes qui partaient peut-être faire des raids, peut-être faire des parachutages, ça on ne le sait pas. C'est une œuvre extrêmement malicieuse parce qu'elle reprend plein de thèmes populaires qu'on connaît très bien dans la musique anglaise et irlandaise, donc des chansons extrêmement connues, et elle les détourne avec beaucoup de malice et d'humour. Et puis à 16h30, il y aura une représentation de théâtre qui sera proposée par le musée autour des femmes en résistance. Ça, tout ça, c'est Marianne Téton qui anime ça, et tout ça, ce seront des manifestations gratuites. Et puis à 19h, on va ouvrir avec une œuvre très très emblématique, 1936, c'est l'année des congés payés, mais pas seulement. en 1936, on a pu entendre une œuvre importante que les petits et les grands connaissent.
Écoutez bien, voici l'histoire de Pierre et le loup. Une histoire pas comme les autres, une histoire qui vous sera contée en musique et par les instruments de l'orchestre. Comment ? C'est très simple, chaque personnage de l'histoire sera représenté par un instrument différent qui jouera une petite phrase musicale facile à retenir. Ainsi, vous pourrez reconnaître sans peine l'oiseau, le canard, le chat, le grand-père, les chasseurs et naturellement Pierre et le loup.
Voilà, vous avez reconnu la voix de Gérard Philippe et ce fameux conte musical de Serge Prokofiev écrit en 36, Pierre et le loup, dont on aura une version, pas avec Gérard Philippe, on n'a pas pu l'inviter, mais avec Baptiste Masson en récitant et le Cantatavant Tetractis. Ce sera dans le Jardin de Ville à 19h, c'est toujours gratuit et c'est donc à la chapelle en Vercors. C'est une journée qui est super parce qu'après il y a le feu d'artifice, donc on peut aller au frais toute la journée du 14 juillet. Et on aura aussi une œuvre extraordinaire dans ce concert de 19h, une œuvre qui s'appelle Jeunesse. Elle a été écrite par un compositeur tchèque qui s'appelle Leos Janáček. Alors c'est une œuvre magnifique que Leos Janáček a écrite en 1924 et Janáček, à ce moment-là, quand il a écrit cette œuvre qui s'appelle Jeunesse, il avait déjà 70 ans. C'est un compositeur qui a commencé à écrire des opéras au-delà de la cinquantaine. Et on m'a trouvé très touchant d'avoir cette œuvre qui parle de la nostalgie de la jeunesse avec le Pierre et le loup. On va continuer ensuite avec un artiste et on va arriver à la vidéo suivante. Un artiste qu'on a déjà eu sur le festival et qu'on a déjà eu ici même à Saint-Jean-en-Royans, c'est Jean-Baptiste Mathulin, un pianiste merveilleux que je vous propose de retrouver en son.
Ces airs de pianiste classique, tout à fait classique, se dissimulent une sorte de montreur et monteur de piano insoupçonné. Je m'explique. Alors même qu'il a pensé un temps bricoler son piano pour l'emmener partout, un autre mélomane a eu cette idée-là avant lui. Il en profite donc pour arriver dans les salles de concert. L'instrument à bout de bras, son piano à queue, compressé comme une statue de César, Jean-Baptiste, qui fait ses concerts, une clé à molette à la main, donne avec mesure des tours de clé, de vis, soucieux de ne pas gâcher ses muscles dont il aura bien besoin pour jouer. Un musicien qui peut ainsi faire basculer le classique dans la rue, dans la ville, dans un parc, un jardin, une église, comme c'est le cas ici à Saint-Genès-l'Hers, où il vient accompagner un ensemble choral. Comme si son métier n'était pas simplement de faire de la musique, mais de mettre la musique au service de tous.
C'est ça, c'est par les concerts que ça passe. Le fait de donner des concerts, voilà, c'est la motivation principale. Et donc, pour les pianistes, c'est pas facile parce qu'il y a l'instrument qui représente un obstacle, en fait. J'ai tout fait dans mes études pour avoir le meilleur niveau possible. Et je trouve... qu'une fois qu'on est accompli, on va dire, enfin qu'on essaye de s'accomplir, le meilleur moyen de le faire, c'est de faire des concerts.
Alors on rappelle un peu son parcours, autodidacte d'abord. Jean-Baptiste Mathulin gagnera ce doigté élégant au Conservatoire de Saint-Étienne, auprès de Roland Meillet, puis à Lyon. Sa sensibilité y est récompensée par de nombreux prix, mention très bien au Conservatoire de Lyon tout de même. Il est aussi soliste du concerto de Schumann, mais le pianiste tôt récompensé ne pouvait se satisfaire de laisser le piano aux initiés.
J'essaye de décloisonner un petit peu parce que je sens une barrière au niveau des gens qui se disent le classique c'est pas pour moi, voilà. Et j'essaye à tous mes concerts de présenter les pièces que j'interprète, voilà, pour essayer d'expliquer, de donner quelques clés d'écoute. Je pense que c'est important pour les gens, voilà, d'avoir déjà comme ça le fil conducteur un petit peu pour qu'ils puissent apprécier ce qui va être exprimé en fait.
Soucieux d'emmener son instrument partout, il emmène la musique partout aussi. Il crée un dialogue musique-peinture qui fait se côtoyer Debussy et Monet, Chopin et les paysages noyés de Turner. Il crée aussi l'histoire de Babard de Francis Poulenc pour le jeune public, mais face à face Liszt et Chopin dans un duel à pleurer. Il réécrit la Marseillaise à la manière de Beethoven, Chopin ou Mozart, propose une sorte de quiz des grands tubes de la musique classique. Enfin, il retraverse les grandes périodes classiques et leurs lieux sources, la Russie, l'Espagne, la Pologne, pour les rendre plus concrets. Et Chopin et son passeur.
C'est un compositeur qui a su écrire pour piano,
Voilà, donc vous aurez l'occasion de découvrir ou de redécouvrir ce personnage qui est passionnant, Jean-Baptiste, qui est passionné par ce qu'il fait et qui est original dans le concept de ce qu'il propose puisqu'il arrive avec son piano. Là, on sera à Saint-Julien-en-Vercors le 16 à 20h30 dans l'église, une des plus belles acoustiques qu'on ait dans le festival. Et Jean-Baptiste va, comme c'était dit rapidement dans le reportage que vous venez de voir, va nous donner de la musique qu'on appelle impressionniste. Alors une des questions qu'on a posées, c'est est-ce que impressionniste, c'est vraiment ça qui convient à la musique de Debussy, de Ravel, de Satie et de Fauré? C'est sûr que si on leur avait posé la question à ces quatre compositeurs français de la première partie du XXe, ils auraient dit non, parce qu'ils n'avaient aucune idée. Vous savez déjà que pour les peintres, Monet et Degas, c'est un critique qui a trouvé ce terme d'impressionnisme et que c'était une critique, justement, plutôt quelque chose qui était de l'ordre du négatif. Et c'est l'histoire des arts qui, a posteriori, s'est dit que dans la manière que ces compositeurs ont de traiter, et notamment dans la musique de piano, les harmonies, la couleur, il peut y avoir un rapport avec la peinture. Donc vous pourrez en juger et vous entendrez notamment une transcription très originale que Jean-Baptiste a fait du célèbre Boléro de Ravel dans ce concert du 16 juillet à 20h30 dans l'église de Saint-Julien. Le 19, c'est le mercredi, et donc on est à Saint-Jean-en-Royans, accueillis comme toujours, et on les en remercie, par la municipalité qui nous soutient vraiment fortement sur cette journée-là. On va accueillir un jeune ensemble que je vous recommande de venir découvrir. C'est un ensemble qui est basé dans le DIWA, qui s'appelle l'Orchestre de Chambre de la Drôme. Ce sont que des jeunes musiciens extrêmement talentueux qui étudient beaucoup au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et aussi un peu ailleurs à l'étranger. Ils ont formé ce collectif parce que l'un d'entre eux est originaire du DIWA et ils proposent vraiment, ils avaient une programmation il y a quelques jours dans la forêt de Sceaux qui était vraiment remarquable. Ils sont férus de musique contemporaine, donc ça m'intéressait dans le cadre de cette programmation-là, et ils proposent vraiment des choses tout à fait originales et avec une énergie qui est propre à leur jeunesse, qui fait plaisir à voir. Ils seront donc là, dans la cour Saint-Joseph le soir, pour un programme de petit orchestre, puisqu'il sera dirigé par leur jeune chef qui sera là avec eux et qui va leur faire jouer des musiques qui nous viennent de plein d'endroits du monde, parce que c'est une chose qu'on ne sait pas assez, c'est que dans le XXe siècle, beaucoup de musiques populaires ont influencé la musique savante. Alors, le premier endroit qui est caractéristique, c'est la Hongrie. On a Bartok, on a Kodály et Ligeti. Ces compositeurs hongrois, ils ont un folklore, ils sont allés puiser dans un folklore qui est extrêmement particulier. Bartok, notamment, c'est un des premiers qui, dans les années 20, a eu recours à des machines d'enregistrement qui venaient à peine d'être inventées pour aller collecter des chansons populaires qui étaient chantées lors des mariages, lors des enterrements, et qui, en fait, n'étaient pas notées, pas écrites. Il les a collectées toute sa vie parce qu'elles étaient d'une vivacité rythmique tout à fait extraordinaire, parce qu'elles utilisaient des modes, des échelles de hauteur tout à fait spéciales. Et donc, il s'en est servi dans des œuvres après à lui, qui étaient des œuvres tout à fait savantes. Autre compositeur, c'est les compositeurs américains qui ont été très, très influencés, parce qu'évidemment, le Nouveau Monde n'avait pas des années de culture derrière lui au début du XXe siècle, comme on pouvait l'avoir ici en Europe. Et des compositeurs comme Bernstein, dans la comédie musicale, ou Gershwin, par exemple, ont beaucoup amené à la musique savante. Et puis, on aura bien sûr Piazzolla, qui est le grand compositeur argentin de tango, dans ce concert. Ça, c'est à 21h dans la cour Saint-Joseph. Mais avant, on aura eu deux choses que je vous conseille aussi de venir découvrir, puisque vous savez que depuis plusieurs années, on propose dans cette programmation, des concerts jeunes publics. On les appelle même pas jeunes publics, j'aime pas tellement ce terme, on les appelle en famille, parce que l'idée, c'est que les gens viennent en famille, les grands, les petits, les moyens, pour partager. C'est un format qui dure 40 minutes, c'est pas plus long que ça, c'est aussi en entrée libre. Et donc, on le donnera deux fois cette année à 11h à la médiathèque ici à Saint-Jean et à la ludothèque, enfin médiathèque à Saint-Laurent. Et c'est une partie des musiciens qui jouent le soir, quatre musiciens qui vont nous donner ce que vous allez entendre maintenant.
Mandez-toi, épigramme, je veux que je m'excuse, ça n'est comme ça, faut pas vous appeler comme ça, valide, mandez-toi, ça n'est en faut pas vous appeler comme ça, valide, mandez-toi, et puis je m'excuse, ça n'est en faut pas vous appeler comme ça, valide, mandez-toi, épigramme, je veux que je m'excuse, ça n'est en faut pas vous appeler comme ça, valide, mandez-toi, et puis gramme. Je veux que je m'excuse, ça n'est en faut pas vous appeler comme ça, valide, mandez-toi, et puis gramme. Rien qu'à moi, nuit dernière. Je veux que je m'excuse, ça n'est en faut pas vous appeler comme ça, valide, mandez-toi, et puis gramme. Rien qu'à moi, tu n'auras comment, nuit dernière. Je veux que je m'excuse, ça n'est en faux pas, me s'appeler comme ça, politiquement dit, toi. Et puis...
Voilà, une récitation de Georges Apergis, un compositeur français, franco-grec, qui a beaucoup œuvré dans le théâtre musical dans les années 70 et qui a fait beaucoup d'expérimentations pour recueillir des bruits de voix qu'on entend dans la vie quotidienne et les transcrire dans des œuvres musicales qui sont très courtes, très drôles, très jubilatoires. Et là, les enfants accrochent très souvent à ce genre de choses. Nous, les adultes, des fois, ça nous paraît un peu bizarre, mais les enfants, ils trouvent ça très, très sympathique. Et donc, il va y avoir un travail autour de ça. Et les enfants du centre social, notamment de Saint-Jean, vont assister à ces présentations. Mais je vous engage à venir. C'est extrêmement drôle, jubilatoire. Et vous écouterez peut-être le lendemain les conversations à la boulangerie ou au people d'une autre manière. C'est vraiment une inspiration des compositeurs du XXe siècle. Je vous parlais d'Yann Hatchek tout à l'heure. Dans ses opéras, il a expliqué qu'une de ses sources d'inspiration, c'était d'aller écouter les gens dans la vie de tous les jours et de noter ça sous forme de chant lyrique. Voilà. Donc c'est vraiment un truc très, 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 très sympathique et jubilatoire. Je vais m'arrêter pour ce premier temps de présentation. On est déjà arrivé au 19 juillet. Vous voyez, on a bien avancé. Et je vais vous présenter maintenant notre artiste du jour, Rémi Patel. Donc, on l'avait accueilli, comme je vous le disais, lors du 10e anniversaire du festival. C'est un jeune guitariste remarquable. Il est élève au départ du Conservatoire de Romans. Quand on l'a accueilli, il était en cours d'études au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris à l'époque. Et on avait beaucoup apprécié sa prestation ici. Et j'ai suivi son parcours depuis. Et c'est aussi un des rôles du festival d'accompagner comme ça des parcours. Rémi, depuis, a terminé les études au CNSM. Il est maintenant un brillant enseignant fonctionnaire au conservatoire du 17e arrondissement et aussi en banlieue. Et il continue une magnifique carrière. Il a été demi-finaliste de deux grands concours de guitare, sans doute les plus grands au monde, l'année dernière, à Koblenz et aux États-Unis. Et il va renouveler avec une partie des pièces que vous allez entendre ce soir, les deux mêmes concours, lors de l'année qui vient. Donc on espère qu'on va lui porter chance aussi un petit peu dans cette démarche. Il joue avec une très très grande finesse et il va commencer ce programme avec de la musique espagnole. Est-ce que vous savez qui a écrit le plus célèbre concerto de guitare de l'histoire de la musique? Oui, ça c'est le titre du concerto qui est une ville d'Espagne, le concerto d'Aranjuez, mais qui est le compositeur? Ah voilà. Oui, tu l'as dit, je l'ai entendu à droite. C'est Joaquín Rodrigo, qui était un compositeur du XXe siècle, aveugle, compositeur espagnol magnifique. Et donc, vous allez entendre maintenant Rémi commencer ce petit moment de musique, on va dire, hispanique, par une œuvre de Rodrigo qui évoque le Generalif et l'Alhambra de Grenade. Et puis ensuite, il vous présentera lui-même le compositeur argentin qui l'interprétera par la suite. Je vous demande maintenant d'applaudir Rémi Patel. Thank you.
Donc maintenant, je vais vous jouer une pièce de Carlos Guastavino, donc qui est un compositeur du XXe siècle, qui a vécu à peu près 80 ans et qui est mort en 1999. Il était pianiste, il a composé énormément de sonates, notamment pour piano et clarinette. Et du coup, il a composé trois œuvres pour guitare, trois sonates. Et du coup, je vais jouer le premier mouvement de la deuxième sonate.
Thank you.
un petit voyage du côté de l'Espagne et puis de l'Argentine, vous voyez qu'il y a des musiques écrites au XXe siècle qui n'ont rien de très moderne ni de très dissonante, mais qu'il y a quand on se promène, il y a vraiment énormément de choses et une grande richesse de répertoire. On va maintenant être le 20 juillet, ça se passe à Romans en partenariat avec Jeudi Musique, c'est sous le kiosque, vous savez, place Jules Nadi, et on va accueillir la famille d'instruments qui a révolutionné la musique symphonique au XXe siècle. Est-ce que vous savez quelle est cette famille d'instruments qui a vraiment changé complètement le visage de l'orchestre symphonique au XXe siècle ? Ah, quelqu'un a une idée ? Hein ? Les hautbois. Non, les hautbois, ils étaient là depuis longtemps. C'est gentil, madame. Hein. Vous ne gagnerez pas de place gratuite pour autant, je tiens à vous le dire. Les percussions, oui. La percussion, vous savez, entre musiciens d'orchestre, on a une petite blague, on dit qu'il y a un endroit qu'il ne faut jamais faire visiter à un compositeur dans une salle d'orchestre, c'est le magasin de percussions. Parce que si le compositeur voit le magasin de percussions, il a envie de tout mettre sur la scène. Alors pour les régisseurs d'orchestre, c'est un travail terrible parce qu'il faut charrier des tas d'instruments. Et pour la mise en place sur un plateau, c'est horrible. L'administrateur de l'orchestre n'est pas content parce qu'à la place d'un timbalier, il doit embaucher 7 percussionnistes. Voilà. Mais la percussion, au XXe siècle, elle a connu un développement énorme dans l'orchestre symphonique. Bon, pour une raison très simple que je vous disais avant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de musique populaire qui avait des instruments de percussion qui n'étaient pas du tout utilisés dans nos musiques à nous, entre guillemets. Dans la musique occidentale, ben, on utilisait les instruments qui venaient de l'armée, hein, la timbale, la caisse claire, la cymbale, et c'était à peu près tout. Le triangle, un petit peu au 19e, ça venait des Turcs. Vous savez, le triangle, c'est arrivé au moment où les Turcs ont fait le siège de Vienne, alors on avait un peu ça. Bon, mais après, au XXe siècle, alors sont arrivés mais des centaines d'instruments qui sont venus de toutes les cultures, évidemment d'Afrique, beaucoup, mais aussi beaucoup d'Asie. L'exposition universelle en 1900 à Paris a été très importante. On a découvert les instruments balinais, on a découvert des choses absolument incroyables. Et tous ces instruments-là sont rentrés petit à petit dans l'oreille des compositeurs et sont rentrés dans l'orchestre en amenant à notre musique une richesse qui était absolument insoupçonnée. Et on a le grand bonheur d'accueillir à Romans le 20 juillet un des meilleurs groupes, sinon le meilleur groupe de percussions avec les percussions de Strasbourg en France, qui est les percussions et claviers de Lyon. C'est un groupe qui existe depuis 40 ans. Ils ont fait un travail sur ces instruments qui est génial. Alors même si vous êtes sourd, ça vaut le coup de venir au concert, parce que déjà quand ils ont réussi à installer, on a vérifié au centimètre carré près, hein, sous le kiosque à Romans, ils sont 5 à jouer. Avec des instruments sur lesquels on frappe, mais aussi, vous savez que dans la percussion, il y a des instruments qui font des mélodies. Hein. Il y a des claviers, c'est pour ça qu'ils s'appellent percussion et clavier. Il y a le marimba, il y a le xylophone, il y a le vibraphone. Et surtout, le marimba, c'est des lames en bois et c'est un instrument 5 octaves. C'est 5 octaves de bonheur, extraordinaire. Déjà, juste de voir l'installation de l'instrumentarium, ça vaut le déplacement. Ils nous présentent un spectacle qu'ils viennent de créer, qui s'appelle « Diable et démons ». Alors attention, le démon va rôder, avec des pièces du 20e transcrites pour leur ensemble. Notamment Petrouchka de Stravinsky, qui est un des trois grands ballets du compositeur russe, mais aussi des pièces écrites avant le XXe siècle, qui ont rapport avec cette thématique, la danse macabre de Saint-Saëns, le songe d'une nuit de sabbat de la symphonie fantastique de Berlioz, et puis des commandes à des compositeurs. C'est vraiment un spectacle à pas louper, je vous recommande, c'est un groupe extraordinaire et une famille d'instruments. La percussion, ça ne fait pas que boum boum, hein, je vous assure. Si vous venez écouter ça, vous allez voir que c'est d'une grande subtilité et d'une immense richesse sonore. Après, on aura un petit jour de pause. Donc, je pense que toute l'équipe, le 21 juillet, et je les salue et je les remercie ce soir, toute l'équipe des bénévoles et des valeureux qui ont déjà installé la salle aujourd'hui auront un jour de sieste tout à fait mérité. Et le 22, on va aller dans un endroit où on n'est jamais allé. On va traverser la Bourne et on va aller à Saint-André-en-Royans. À 18h, vous aurez une visite du village par les amis du Vieux-Saint-André. Je vous recommande, c'est un village qui est très riche. Bon, je pense que beaucoup le connaissent, mais ça vaut le coup de vraiment refaire une visite. Moi, je connaissais déjà, mais j'ai été vraiment séduit. Donc ça, c'est à 18h. C'est gratuit, la visite du village. Et après, il y a le concert le soir. Si vous avez des gens que vous avez envie d'emmener au Festival des Chapelles depuis plusieurs années, mais qui vous disent à chaque fois « Oh, moi, le classique, je suis pas sûr, peut-être je vais m'ennuyer », amenez-les à ce concert du 22. C'est un concert qui s'appelle « Florilège du cinéma en musique ». C'est le quatuor à cordes de Tétractis que vous connaissez bien, avec Georges Denois, Dominique Mitton, Anna Simray, Isabelle de Bévert. Et vous pourrez entendre un florilège de musique de film, Alors, pour ceux qui ont pleuré à Titanic, qui ont suivi les westerns de Morricone en étant presque prêts à rentrer dans l'écran, pour aussi les plus jeunes ou les moins jeunes qui regardent ces magnifiques dessins animés du japonais Miyazaki, il y a beaucoup des musiques d'Isaichi, qui est vraiment un génie de la musique de film japonais. Donc, Le Château dans le Ciel, le voyage de Chihiro, etc. C'est vraiment des musiques d'une très, très grande poésie. Il y aura aussi pas mal de musique de comédie musicale américaine. Donc, c'est vraiment le concert festif par excellence de ce festival. Le lendemain, on va retourner à Bouvante-le-Haut. C'est une autre des acoustiques qui est vraiment chouette. Bon, les bonnes acoustiques, c'est facile. Hein. Quand vous avez un bon chevet roman, il n'y a pas une grande église gothique ou une église où la voûte a été refaite en béton, mais un bon chevet roman en pierre, c'est bien pour la musique. Et donc, à Bouvante, c'est particulièrement agréable. Et on va avoir le même quatuor à cordes de Tétractis, que j'aurai le plaisir de rejoindre, mais aussi également deux musiciens extraordinaires qui seront là ce soir-là. Un violoncelliste qui s'appelle Pierre Schaff, qui a eu le premier prix au concours international du printemps de Prague. Alors, pour nous musiciens, le premier prix à Prague, c'est les Jeux Olympiques, quoi. C'est un des deux ou trois concours internationaux les plus importants dans le monde, pas seulement pour le violoncelle, mais pour tous les instruments. C'est un concours qui existe depuis l'après-guerre et qui est vraiment extraordinaire. Et donc, Pierre Schaff a gagné ce concours. Donc, rien que pour lui, ça vaut le coup de venir écouter ce concert. Et puis, on aura aussi Gaëlan Michel, qui est une remarquable violoniste d'origine romanaise, qui a fait une carrière de violon solo comme violon solo de plusieurs orchestres chez nos amis britanniques. Malheureusement, heureusement, je devrais dire, le Brexit nous l'a ramené en France et l'a ramené à Besançon. Vous voyez, des fois, on arrive à attraper des bons musiciens et... Voilà, elle vient de rejoindre l'orchestre Victor Hugo en réalisant un très brillant concours voici quelques mois. Et donc, elle sera avec nous pour un programme avec sans doute l'œuvre qui est la plus importante pour commencer le XXe siècle pour nous autres musiciens, qui est une œuvre d'un compositeur qui s'appelle Arnold Schoenberg. Schoenberg, ça a été le grand modernisateur de la musique allemande. Il a d'ailleurs prétendu, de manière un petit peu prétentieuse, à un moment dans sa vie, dans les années 20, qu'en inventant le dodécaphonisme, il assurait l'avenir de la musique allemande, l'hégémonie de la musique allemande pour encore 100 ans. Bon, dans les années 20, quand on entendait ça, même s'il était plutôt communiste, c'était quand même pas des choses qu'on aimait tellement entendre. Mais c'était quelqu'un qui a été un musicien extraordinaire parce qu'il a fait basculer la musique allemande, et en tout cas de l'ère austro-allemande, on pourrait dire, du romantisme dans le modernisme, à Vienne. D'ailleurs, il a fondé une école dans cette ville de Vienne qu'on appelle la seconde école de Vienne. La première école de Vienne, excusez du peu, c'est Mozart, Haydn et Beethoven à la fin du XVIIIe siècle. Donc, c'était pas rien qu'on ait appelé ça la deuxième école de Vienne. Il a formé des élèves aussi extraordinaires que Berg et Webern. Et une de ses œuvres emblématiques, qui est au tout début de son parcours et qui est très importante, qui a été créée en 1902 avec un scandale, comme beaucoup de créations d'œuvres de Schoenberg, c'est La Nuit Transfigurée. C'est une œuvre pour sextuor à cordes qui dure une demi-heure et qui est la mise en musique d'un poème expressionniste de Richard Demel. Ce poème décrit, ça se passe la nuit, parce que c'est la nuit transfigurée, et dans la nuit, il y a une dame qui revient voir son compagnon et qui lui dit « Je porte un enfant, mais l'enfant n'est pas de toi ». Et la fin de l'histoire, de cette histoire passionnée et tragique, c'est qu'évidemment, le compagnon va dire « Mais c'est pas grave, notre amour est plus important et ce sera quand même mon enfant ». Je vous propose d'écouter un petit extrait de ce chef-d'œuvre de Schoenberg. Vous allez voir que ça a fait scandale, mais à nos oreilles maintenant, c'est aussi intéressant, c'est plus si moderne que d'autres peut-être œuvres de Schoenberg que vous avez pu entendre. Thank you. Voilà, notre travail de musicien, c'est parfois d'essayer de transfigurer les soirées ou la nuit. Donc cette nuit transfigurée de Schoenberg, vous entendez. Quand je parlais tout à l'heure de Jean-Baptiste Mathulin et du piano qu'on qualifiait d'impressionniste dans la musique française, moi je trouve parfois que certains passages de ce Schoenberg-là, qu'on vient d'entendre à la fin, sont plus impressionnistes que certaines pages plus riantes, par exemple, qu'on peut avoir chez Eric Satie ou chez Ravel. Dans la deuxième partie de ce concert, à Bouvante, le 23, vous aurez de la musique anglaise. Dans la première partie, plus exactement, ça va être plutôt dans cet ordre-là, une magnifique œuvre de Britten, jeune compositeur à l'époque, parce qu'il a écrit ça dans les années 20, pour hautbois et trio à cordes, qui s'appelle Fantasy Quartet, qui est une pièce absolument extraordinaire, parce qu'il a écrit ça à peine 20 ans, et c'est une œuvre tout à fait étonnante qui réunit le hautbois et le trio à cordes, et une œuvre d'un autre compositeur anglais, cette fois qui a été écrite en 1984, ce compositeur c'est Jonathan Harvey. Et je jouerai cette œuvre qui est écrite pour hautbois et dispositif électronique, dans lequel il y a un hautbois et trois de ses doubles. C'est une œuvre qui est extrêmement virtuose et qui est pleine de couleurs et qui transforme parfois le son du hautbois en chant des baleines. Voilà. On va retrouver maintenant Contraste du XXe siècle. Vous voyez, là, c'est pas prévu comme ça, mais ça, c'est comme ça que ça se passe. Après Schoenberg, on va entendre maintenant de la musique qui nous arrive de Bulgarie. On va retrouver Rémi dans une danse d'un compositeur qui est toujours vivant aujourd'hui et qui s'appelle Atanas Urkuzunov. J'espère avoir bien prononcé, c'était pas gagné d'avance. Et vous allez voir que la guitare, c'est pas que l'Espagne, mais que ça peut être aussi les Balkans. Thank you. Alors, on arrive au 25 juillet. Ah, ça, c'est une date que j'attends avec impatience parce que c'est des artistes qu'on devait accueillir l'année dernière et qui ont malheureusement été empêchés pour des raisons de virus que vous pouvez imaginer. Et donc, on est très, très heureux de pouvoir retrouver les artistes qu'on va voir tout de suite. Voilà, vous avez. L'année dernière, notre thématique, c'était un air de famille. Donc, les deux musiciens, violoniste et violoncelliste, que vous avez vus, c'est deux frères, les frères Seigle, c'est pour ça qu'ils devaient jouer l'année dernière. Et ils ont réalisé plusieurs disques, dont un avec cette chanteuse que vous avez pu entendre brièvement, qui est une chanteuse vraiment extraordinaire, qui s'appelle Noémie Weisfeld. Noémie, elle est classée musique du monde, mais en fait, elle peut chanter plein de choses. Vous avez entendu là, c'est pas très représentatif l'extrait musical du programme qu'ils vont donner, mais là, vous avez entendu, elle est spécialiste. D'abord, elle est juive, donc elle a vraiment cette manière de raconter, notamment la prière du Kaddish, qui a été mise en musique par Ravel, vous le savez peut-être, qui est une des œuvres qui est sur leur dernier enregistrement. Mais elle chante aussi la musique de Gershwin, donc des choses très, très enlevées. Vous savez qu'il y a un rapport entre Gershwin et Ravel. C'est que Gershwin, qui était un compositeur extrêmement connu et extrêmement riche de par les comédies musicales qu'il écrivait et qu'il montait avec son frère Ida, il a rencontré Ravel aux États-Unis dans les années 30 et il était autodidacte en musique. Il est donc allé voir Ravel en lui disant « Maître, vous êtes un compositeur extraordinaire, je sais que vous appréciez ce que je fais, est-ce que vous pourriez me donner des cours ?» Et Ravel a absolument refusé, au prétexte que si Gershwin se mettait à apprendre la science de l'orchestration que Ravel pouvait lui enseigner, il allait faire du Ravel, mais en moins bien. Et il lui a dit, il vaut mieux que vous continuiez à faire du Gershwin en numéro un plutôt que de faire du sous-Ravel. Voilà, donc les deux hommes se sont rencontrés, ils avaient une très très grande admiration l'un pour l'autre, bien qu'œuvrant dans des domaines très différents. Et vous pourrez découvrir ces deux compositeurs avec ce trio tout à fait original. Donc le concert est à Saint-Agnan dans l'église. Ils donneront également des œuvres de Manuel de Falla, donc on repartira un petit peu en Espagne. Ils donneront également du Martinou, compositeur tchèque. Et ils donneront un compositeur que je trouve extraordinaire et qu'on retrouvera dans le concert de clôture, qui est Erwin Schulhoff, ce compositeur dont je vous reparlerai plus tard, mais retenez ce nom, celui-là c'est quelqu'un. Après le 25, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on va à Jaillan, encore un nouveau lieu. Démon du Matin qu'on n'avait pas visité. C'est une très jolie église, Jaillant, je vous la recommande, parce qu'elle était, ça a été une église, je ne sais pas comment on dit, fille, ou dans le giron, ça serait peut-être plus exact, de l'abbaye de Léoncelles. Et il y a quelques chapiteaux romans qui ont été très bien réutilisés à l'entrée de l'église, et un chœur qui est magnifique. Donc si vous ne la connaissez pas, je vous recommande déjà pour le lieu de venir au concert. Et on va entendre du jazz avec deux artistes que nos amis Patrice et Christian vont vous faire entendre tout de suite. Marc Droit et François Tullier. François Tullier, c'est le meilleur tubiste français. On l'a déjà accueilli deux fois sur le festival, ou trois fois même peut-être. Et voilà, c'est un artiste à pas louper. C'est vraiment un monstre sacré. C'est quelqu'un, dès que vous allez dans une ville de France et que vous voyez un tubiste, je connais François Tullier. Il dit, ah oui, je sais, ça a été mon professeur, ça a été le professeur de mon professeur. C'est quelqu'un d'éminemment simple et un très grand artiste qu'il ne faut pas rater. Et ben, on se rapproche de la fin. Ah tiens, à propos de jazz, demain à 18h, la salle des fêtes de la Chapelle, on accueille Nicolas Fargeix et Eric Seva, un duo magnifique clarinette et saxophone. Ne ratez pas ce moment-là, ça promet demain. Et puis le jazz, c'est important qu'il soit dans les programmations. Vous savez, maintenant, on ne dit plus jazz, c'est d'ailleurs très dommage. Dans les ministères, on dit par exemple musique américaine moderne. Voilà. Mais moi, je trouve que c'est toujours le jazz, et c'est en tout cas une forme des musiques du XXe siècle qui est vraiment essentielle et qui a plein de visages qui sont importants de continuer à entendre, parce que c'est des artistes extraordinairement émouvants dans leur manière d'exprimer leurs sentiments par l'improvisation en direct. Et je pense que demain encore, avec Eric et Nicolas, il y aura des moments magiques. J'arrive à la clôture à l'abbaye de Léoncelles. C'est de tradition, c'est à 16h. Et donc, on sera avec mon ami pianiste Marc Pantillon pour un projet qui est... qu'on poursuit depuis longtemps et qui se continue de disque en disque autour de ce que les nazis ont appelé les musiques dégénérées. Alors, en fait, en 1938, les nazis ont organisé à Düsseldorf une grande exposition qui était, il fallait quand même le faire, fallait quand même oser le faire, une exposition de tout ce qu'il ne fallait pas entendre ou tout ce qu'il ne fallait pas voir. Voilà, donc ils ont fait une grande exposition. Et dans cette exposition, il y avait évidemment les peintres expressionnistes, mais en musique, eh bien, il y avait l'affiche d'ailleurs, c'était un jazzman américain, c'était un noir américain en train de jouer du saxophone. Ça, c'était vraiment le comble de l'ignominie. Mais il y avait également Schoenberg, qu'on a entendu tout à l'heure, et il y avait Shulov, dont je vous ai dit un mot et qu'on jouera lors de ce concert. Shulov, c'est un compositeur qui était un pianiste extraordinaire, classique, qui a été formé par Dvorak, c'est vous dire, c'est quand même pas rien. Et ensuite, il a été interdit de travailler en tant que juif, et donc sa seule source de revenus, c'était d'aller dans les caves de jazz à Berlin pour jouer du jazz. Mais il n'était pas jazzman au départ, simplement il était tellement doué qu'il a appris ça sans aucun problème. Il était, en plus d'être juif, il était homosexuel et communiste. Donc vous voyez, lui, il avait tout. Et il avait participé, dans les années 30, il écrivait une musique qui était une musique proche du jazz parfois, qui était une musique symphonique, réfléchie, moderne, mais qui n'était pas très avant-gardiste. Par contre, dans les années 10, après la Première Guerre mondiale, parce que la modernité, ça vient aussi du choc de la Première Guerre mondiale, les gens qui sont rentrés de là, ils se sont dit, mais où est-ce qu'on va, quoi ? Donc, à la place d'écrire des œuvres normales, ils ont écrit des fois des choses qui nous paraissent un peu choquantes ou bizarres, mais il faut imaginer dans quel état était leur mémoire, leur cerveau, leur affect de retour de cette guerre. Et donc, à ce moment-là, Shulov, il a écrit des pièces d'Ada. Vous vous souvenez de la pièce d'Apergis qu'on a entendue, qui a été écrite en 78. Shulov, il a écrit des choses comme ça, mais dans la fin des années 1910. Il a aussi mis en musique un petit bout du manifeste du Parti communiste, qui est quand même une chose relativement originale. Il a écrit la première pièce constituée uniquement de silence, bien, bien longtemps avant que John Cage le fasse dans la deuxième partie du XXe siècle. Donc c'était un type complètement hors norme. Et on va jouer avec Marc une de ses sonates. On a déjà joué un bout de cette sonate à Roman en avril, et là on va en jouer encore un autre bout, puis de la musique de In the Minute, et aussi des compositeurs qui ont été interdits par les nazis et qui peuvent paraître tout à fait anodins pour nous aujourd'hui, puisqu'on va jouer du Mendelssohn, qui était le grand génie, un des grands génies romantiques. Mais simplement, Mendelssohn, vous voyez, c'est un nom juif, il était juif, son grand-père, grand philosophe des Lumières d'ailleurs. Et donc, musique interdite et interdite à jouer pendant cette période-là. Donc on vous proposera un programme, et vous savez, puisque beaucoup connaissent, qu'avec Marc au piano, avec Marc Mantillo au piano, c'est toujours des grands moments de poésie, et dans l'acoustique de Léon Selle, on est vraiment toujours gâtés pour terminer le festival. J'ai déjà bien parlé, je vais vous proposer d'écouter encore un petit peu de musique parce que vous êtes là pour ça. On va repartir complètement dans un autre endroit où on n'est pas encore allé ce soir, même si c'est sur le continent américain, c'est un peu plus au nord. On va aller au Québec avec Jacques Hétu, qui est le compositeur québécois du XXe siècle. Il est mort il y a quelques années, pas très longtemps, Jacques Hétu, une grosse dizaine d'années. C'est le plus joué au Québec et c'est le compositeur québécois le plus connu dans le monde. Il a écrit beaucoup de musique symphonique. Et il a écrit une suite pour guitare que va vous interpréter tout de suite Rémi.
Thank you.
je vais inviter Fabrice à venir sur scène, car on a une petite surprise.
Ah oui, une surprise. Vous prendrez le temps de regarder l'arrière de la plaquette aussi, parce que ça, c'est tous les gens qui nous soutiennent. C'est d'abord une grande fierté d'en avoir autant, et ensuite une grande gratitude, parce que évidemment, sans eux, on ne pourrait pas vous offrir tous ces concerts. À tous les gens qui vont venir, vous savez qu'il y a beaucoup de concerts gratuits au Festival des Chapelles. Hein, c'est seulement 6 concerts payants dans la programmation. On a besoin que vous veniez aussi aux concerts payants, hein, sinon on ne va pas s'en sortir. Mais... c'est pas ça que je voulais dire. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses gratuites et peut-être des choses que vous voyez moins dans la programmation. Par exemple, on ira jouer à la matinière pour les personnes âgées, je pense, le 27 juillet en matinée. Et aussi, je pense à la Providence le 26. Je parle sous le contrôle de mon trésorier après-midi. C'est ça, Christian ? J'ai pas dit de bêtises ? En principe, confirmé. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'on tient vraiment à remercier les collectivités et les privés qui nous soutiennent. Voilà, je vais aller chercher un instrument. On avait envie de finir avec une pièce un petit peu douce et mélancolique. Vous savez peut-être qu'on a, malheureusement perdu un de nos bénévoles historiques ces derniers jours au sein du Festival des Chapelles. Notre ami Francis, qui était quelqu'un qui était extrêmement passionné, extrêmement intelligent et avec qui on a eu beaucoup de plaisir de partager plein de moments de débats, de discussions et d'émotions et de musique. Et on voulait, avec Rémi, dédier ce petit bis à sa mémoire et à sa famille.
venez de suivre la présentation de la 16e édition du Festival des Chapelles en Royan-Vercors, enregistrée le 5 mai 2023 dans la salle La Parenthèse à Saint-Jean-en-Royans, avec son directeur artistique Fabrice Férez. Pour l'accompagnement musical à la guitare, c'était Rémi Patel. Rendez-vous à présent pour cette 16e édition du 14 au 30 juillet dans les chapelles du Royan-Vercors pour suivre ces événements musicaux.